Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture. Patrimoine, spectacle, visite et initiative, l'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 7 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi pour ce Franche Culture, Isabelle, Cécile, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, Cécile nous parle de musique baroque à l'occasion du festival Les Rendez-vous d'Amaryllis qui aura lieu à Angers du 21 au 25 novembre. Isabelle va nous conduire dans la galerie d'art contemporain Art & Co à Angers. Et pour commencer, on part à la découverte des petites et grandes histoires d'Angers. C'est parti pour 25 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
On entre dans le vif du sujet avec vous Isabelle et votre invitée.
Oui, avec Odile Vibeau, guide conférencière indépendante à Angers. Elle va nous livrer quelques anecdotes de la vie locale à travers l'histoire et le patrimoine de la ville d'Angers. Odile Vibeau, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va commencer par une devinette. Alors à vous la parole, Odile.
Alors, mon personnage, à deviner, est né à Angers en 1409 et mort à Aix-en-Provence en 1480. Son arrière-grand-père est roi de France, son grand-père duc d'Anjou est le commanditaire de la tapisserie de l'Apocalypse. Son père, d'ailleurs, en profite comme décoration pour son mariage avec Yolande d'Aragon. Et lui est duc d'Anjou et du Maine, duc également de Bar et de Lorraine, roi d'Aragon, de Naples, de Sicile et roi titulaire de Jérusalem et même comte de Provence et de Barcelone.
Alors, qui suis-je ? J'imagine que c'est le roi René. Et je crois savoir que le comte de Quatre Barbes au XIXe siècle ne tarissait pas d'éloges sur notre bon roi.
En effet, c'était un fan absolu. Et d'ailleurs, c'est un petit peu grâce à lui que le titre de roi René, même le bon roi René, est passé à la postérité. Il avait fait éditer le livre des écrits du roi René, Le cœur d'amour épris, dont la vente était censée financer la statue de bronze que l'on connaît à l'entrée de la ville et qui a été réalisée par David d'Angers. En effet, il tenait notre duc d'Anjou pour quelqu'un de très cultivé, il parlait d'ailleurs plusieurs langues. Il s'intéressait aussi aux sciences et notamment à la botanique. Il nous avait rapporté les roses de Provins, les abricotiers de Provence. Et puis, c'était également la mode des ménageries, c'est-à-dire qu'on connaît les cabinets de curiosité, et bien c'est un peu la version cabinet de curiosité, mais avec des animaux. Et donc, notre duc d'Anjou avait des dromadaires à l'intérieur de la forteresse, et il avait même eu en cadeau par deux fois des léopards. Et dans les fossés, et bien il y avait des biches, des cerfs.
Donc, avec des léopards ?
Alors non, les léopards, bien sûr, étaient à l'abri dans leur propre maison
cage.
Parce que sinon, ils auraient rapidement été en effet tout seuls dans les fossés.
Et alors justement, est-ce qu'il ne se passait pas autre chose derrière les remparts ?
Alors, vous avez tout à fait raison. Les fossés, qui d'ailleurs, en passant, ont toujours été des fossés secs, effectivement entouraient le château et avaient été complétés du temps de Saint-Louis par des remparts tout autour de la ville. Et c'était un lieu idéal pour organiser des tournois. C'était l'autre passion de notre roi René. Et les tribunes d'honneur se trouvaient face au château, à ce qui est maintenant pour les Angevins la place de l'Académie. Et d'ailleurs, lorsque la ceinture de remparts en ruine au XIXe siècle a été remplacée par la ceinture de boulevard que l'on connaît maintenant, le boulevard du roi René s'est initialement appelé le boulevard des Lys, parce que les Lys, c'était les clôtures, les palissades, mais ça désignait aussi le lieu des joutes, des tournois. Et donc, c'était l'endroit où avaient lieu effectivement les tournois que le roi René aimait beaucoup organiser.
Il était aussi amateur de théâtre ?
Exactement. Il aimait les spectacles en tout genre, on peut dire ça. Il avait un côté bon vivant et il aimait beaucoup de belles choses. Et notamment, effectivement, en théâtre, on dit parfois que la farce de Maître Patelin serait attribuée à Triboulet. Triboulet, c'était un peu le fou du roi, que l'on dirait maintenant directeur de troupe de théâtre de façon beaucoup plus sérieuse. Mais il organisait aussi des représentations de mystères, c'est-à-dire ces pièces de théâtre à sujet religieux qui étaient données autrefois sur les parvis des cathédrales ou bien ici sur l'ancienne place des Halles.
Alors revenons à la statue du roi René. Est-ce qu'elle a toujours été à cet emplacement ?
Eh bien, elle a été initialement donc commandée par le comte de Quatre-Barbes à notre sculpteur David d'Angers, qui l'a préparée dès 1847, pardon. Elle était coulée en bronze, mais elle a d'abord été installée de façon un petit peu confidentielle dans ce que l'on appelait le jardin fruitier, qui est maintenant le jardin des Beaux-Arts, parce que la municipalité d'alors était plutôt à tendance républicaine. Et donc, il a fallu attendre le Second Empire pour que cette fois-ci, la statue arrive à l'emplacement qu'on lui connaît maintenant, en entrée de ville, lors d'une fête assez somptueuse. Et elle va bientôt se rapprocher encore un peu plus du château, parce qu'il y a un projet de restructuration de la place afin d'apaiser la circulation, comme disent joliment les urbanistes.
Alors, apaiser la circulation, c'est une préoccupation très actuelle, n'est-ce pas ?
Eh oui, mais en fait, pas tant que ça. Dès 1922, figurez-vous que l'on se plaint de la difficulté de circuler à Angers. Ça nous fait un peu sourire maintenant. C'est le moment où, à Paris, apparaissent les premiers feux. À ce moment-là, ce ne sont pas des feux tricolores, ce sont des feux rouges clignotants. À Angers, il faut attendre 1933 pour voir le premier feu de cette sorte arriver au carrefour du Haras, un endroit où il y a un sens interdit visiblement très dangereux. Sinon, ce sont les policiers qui gèrent la circulation au carrefour. Et c'est seulement en 1953 qu'arrivent à Angers les feux tricolores, 20 ans après Paris. Et il faut donc expliquer leur fonctionnement dans la presse. On explique, on détaille le code couleur dans les journaux pour que les gens prennent l'habitude de les utiliser correctement.
Bah, ça nous fait bien sourire.
Oui.
un autre moyen d'apaiser la ville, ça peut être les rues piétonnes. D'ailleurs, les rues Saint-Aubin et Saint-Lô datent d'il y a fort longtemps. Odile, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Effectivement, les deux première rue à être piétonnisée avec leur rue adjacente dans les années 70 sont en fait les deux grands axes de circulation nord-sud et est-ouest de la ville romaine. Parce qu'en effet, Angers a un très long passé et d'ailleurs c'est la tribu des Andes des Gaves, une tribu gauloise qui a donné son nom à Angers. Et l'axe nord-sud qu'on appelle le Cardo, eh bien, correspond à la rue Saint-Lô. Et le Decumanus, l'axe est-ouest, correspond à la rue Saint-Aubin. Et c'est à leur intersection se trouvait un forum qui a été remplacé par la cathédrale avec la christianisation de la région.
Alors revenons à la rue Saint-Aubin. À défaut d'histoire belge, je crois que vous avez une histoire suisse à nous raconter.
Eh bien oui, figurez-vous que La région des Grisons, qui est maintenant la région de Saint-Moritz, et dont la viande vaut maintenant très cher, eh bien, au XVIIIe siècle, les gens de là-bas avaient beaucoup de mal à vivre sur place de leurs seules ressources. Il y avait donc des colporteurs qui quittaient leur région des Grisons pour parcourir toute l'Europe en vendant donc toutes sortes de choses. Et au XIXe siècle, un certain nombre vont s'expatrier définitivement et une quinzaine de familles va s'installer à Angers, dont cinq dans la même rue, une rue du centre, la rue Saint-Aubin, justement, cette rue piétonne dont on parlait à l'instant. Et la plupart développent des boutiques de métiers de bouche, donc charcuterie, boucherie, et notamment une pâtisserie qui s'appelait les Divines Pâtisseries dans la rue Saint-Aubin. D'ailleurs, on disait que la rue Saint-Aubin était un petit monde en soi dans lequel on aurait pu vivre sans jamais la quitter, tellement on pouvait y trouver tout le nécessaire.
Alors Odile, passons maintenant à un sujet d'actualité. Avec les pluies récentes, la Loire se gonfle. Autrefois, on se demande comment l'eau alimentait la ville et quel était le rôle de la Loire.
Eh bien, il y avait une certaine concurrence entre l'eau de la Maine et l'eau de la Loire, sachant que c'était les rivières qui étaient les principaux lieux pour se fournir en eau. Et l'eau de la Maine était de bien moins bonne qualité que l'eau de la Loire. Il y avait bien sûr aussi des sources qui alimentaient quelques puits ou des fontaines. En fait, les gens qui avaient les moyens au XIXe siècle avaient des grandes cuves dans leurs caves. Dans les caves, on ne mettait pas que le vin, voyez-vous. Il y avait aussi, chez les personnes un peu favorisées, des grandes cuves qu'ils faisaient remplir avec de l'eau de la Loire. Et puis, sinon, il y avait des porteurs d'eau qui arrivaient au petit matin place du ralliement. Et là, ils se fournissaient à la source de la fontaine de l'Épervière à Saint-Sylvain-d'Anjou. Et ensuite, eh bien, ils vendaient leur eau au bidon, comme on allait acheter le lait. Et dès 1833, la municipalité réfléchit à la possibilité de vraiment relier la ville de Angers à l'une des deux rivières. Mais justement, pour savoir laquelle choisir, eh bien, figurez-vous qu'il va falloir 20 ans de bataille d'études. Déjà à l'époque, les études pouvaient ralentir certains projets et demander du temps. Et donc c'est seulement en 1853, grâce aussi à la technologie, l'apparition des machines à vapeur, que va être construite une usine hydraulique au Pont-de-Cé, qui continue d'ailleurs d'alimenter la ville de Angers en eau. À l'époque, c'était 50 litres par jour et par habitant, alors que maintenant, on est passé à 150 litres.
Alors, le 19e siècle, c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît l'électricité, une révolution. Et je crois que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet.
Oui, effectivement. Eh bien, l'électricité, oui, révolutionne complètement l'éclairage de la ville. Avant, on fonctionnait avec des lanternes et des bougies, et puis sont arrivés les becs de gaz. Il y a eu pendant un certain temps presque une concurrence d'ailleurs entre les becs de gaz et l'électricité. Et le premier lieu à se raccorder, à fonctionner à l'électricité, c'est le Palais des Marchands, qui était un des grands magasins dans ce qui est maintenant Fleur d'Eau, à cet endroit, dès 1880. Et puis ensuite, va être éclairé à l'électricité le Grand Théâtre, l'Hôtel de Ville, le Centre-Ville et seulement 4 lampadaires pour le quartier de la Doutre, de l'autre côté de la rivière. Et c'est vraiment au début du XXe siècle, avec le raccordement aux usines électriques, que l'ensemble de la ville va être raccordé.
Alors, puisqu'on parle électricité, parlons tramway. Quand est-ce que les premiers tramways sont arrivés à Angers ?
Eh bien, vous avez parfaitement raison de lier les deux, parce que le premier tramway est en effet électrique. Et c'est en 1896 que les premières lignes vont être mises en route entre Angers et Trélazé et Angers et Érigné, de Mur-Érigné. Il s'agit de relier la ville au principal lieu, notamment les ardoisières.
Alors pourquoi ces deux destinations de Trélazé et d'Érigné ?
Alors effectivement, les ardoisières, c'est le premier motif pour investir dans ces lignes, les ardoisières de Trélazé, mais il y avait également des ardoisières au Poncé. Et je me suis laissé dire qu'un certain Émile Giffard, licoriste, l'inventeur de la menthe pastille, eh bien, était maire de Mur de Érigné et donc a réussi à avoir une petite prolongation de la ligne jusque dans sa commune.
Merci Odile.
Alors vous pouvez retrouver Odile Vibeau sur la page Facebook Les Bulles de Culture de la guide Odile, sur Instagram et sur l'agenda de l'Office du Tourisme. Merci Isabelle, merci Odile. On fait une petite pause musicale entre pop et rap avec le titre L'Adresse par le groupe 47 Terres.
Le 47 terre, l'adresse à laquelle on a passé nos vies. Le secteur du collège au lycée, je crois que c'est passé trop vite. On se comprenait, même lorsque l'on se taisait. On s'est tout raconté, même en passant par la première baise. Et souviens-toi, on avait peur de l'avenir. On se demandait plus tard ce qu'on allait faire dans nos vies. On se calait sur ton toit dans l'avenue. On s'est côtoyé des années, depuis toujours ça continue. Inséparable, on est paré, ce qui se prépare s'annonce mémorable. Un paragraphe encore paré, cette histoire s'annonce adorable. On se met la race dans les rues de la ville. Après nos concerts hystériques, je veux que ton nom résonne à vie. Dans la mémoire du public, tu mérites. On a tous un bat, une adresse. On a tous un blaze qui nous reste dans la tête. On a tous un bat, une adresse à défendre. Qui devient la base, qui devient la légende. Et j'entends. On a tous un bat, une adresse à défendre et j'entends. Rendez-vous 47 terres. Rendez-vous à l'adresse. Rendez-vous 47 terres.
C'était le trio français 47 terres. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus et dans Franche Culture, nous aimons toutes les musiques. La preuve, nous passons du rap à la musique baroque. Avec vous, Cécile.
Et oui, sans transition, pour un tout nouveau festival à Angers, les Rendez-vous. Il a été créé par l'ensemble de musique baroque Amarillis, avec un programme ambitieux, imaginé par la musicienne Héloïse Gaillard. Et vous allez voir, c'est vraiment très varié, ludique parfois même, et surtout à destination de tous les publics, même les moins avertis en musique classique.
Alors avant de passer au programme, Cécile, le programme du festival, c'est quoi la musique baroque ?
Alors je vais en parler de manière très simplifiée, hein, je ne suis pas musicologue. C'est un mouvement musical qui est né en 1600 en Italie avec les opéras italiens, les concertos et les sonates, et notamment avec le compositeur Monteverdi. La musique baroque couvre une période de 150 ans jusqu'en 1750, pour être précis jusqu'au traité d'harmonie de Jean-Philippe Rameau qui marque la maturité du système.
Alors, les grands noms de la musique baroque ?
Alors, il y en a beaucoup, je vais en citer juste quelques-uns. Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach et George Frédéric Handel. Les instruments de prédilection de la musique baroque sont la flûte à bec, la viole de gambe, le clavecin, le luth ou encore l'orgue. Du point de vue musical, le baroque va se caractériser par un style expressif, destiné à représenter les passions humaines. C'est une musique dans laquelle les contrastes sont très distingués, grave, aigu, sombre, clair, accord, mineur, majeur. Et pour finir, dans la musique baroque, l'œuvre est jouée avec les instruments de l'époque et avec des tempi de l'époque qui sont souvent beaucoup plus rapides.
Alors ce festival, les rendez-vous d'Amaryllis.
Alors pour le grand public, trois grands rendez-vous. Tout d'abord, premier rendez-vous, le concert du 24 novembre au Grand Théâtre d'Angers. Il s'intitule « Destin de reine ». Trois reines, trois compositeurs, trois époques. Ce sont les portraits en musique de trois figures emblématiques de notre histoire. Tout d'abord la reine Marie, Queen Marie, qui a régné à la fin du XVIIe siècle et que Henri Purcell a connue et à qui il a rendu hommage en musique dans plusieurs œuvres. Ensuite, Agrippine la Jeune, impératrice romaine, qui a été mise en musique par Handel, justement. Et enfin, cher aux Angevins, puisque son gisant est à l'abbaye de Fontevraud, Aliénor d'Aquitaine, deux fois reine, reine de France et reine d'Angleterre. Et là, il s'agit d'une œuvre contemporaine qui fait écho à la musique baroque. Cette œuvre s'intitule « Cantate tombeau pour Aliénor » et elle a été écrite sur un poème d'Olivier Py. C'est une commande spécifique qui a été faite auprès du compositeur Thierry Escaïche et elle a été créée en résidence à l'abbaye de Fontevraud, justement, donc vraiment en immersion autour du tombeau, on peut le dire, en 2023. Le concert sera interprété par l'ensemble Amaryllis et la soprano Patricia Petitbon.
Alors ensuite, on a un concert gratuit.
On a un concert gratuit, oui, le 25 novembre à 14h30. Et ne ratez pas ça, parce que c'est dans le magnifique cadre des Greniers Saint-Jean. Ce concert-là, il est proposé par Amaryllis, les professeurs et élèves de musique ancienne du Conservatoire d'Angers. Au programme Marin Marais, Lully, Delalande et bien d'autres. Ça va être un programme assez varié, comme vous l'avez dit Marie, c'est gratuit, alors ne boudez pas votre plaisir.
Bon maintenant Cécile, vous nous aviez promis du ludique.
Oui, alors là j'adore, vraiment j'adore, c'est le Baroque Ball, un concert dansant. L'orchestre joue, il y a des meneurs qui lancent le bal, donc on va pouvoir découvrir plein de danses qu'on a oubliées, c'est joyeux. C'est ludique, c'est très amusant, enfin c'est très très gai en fait. Parfois il y a des personnes qui viennent costumées, mais n'ayez pas peur, c'est pas obligatoire du tout parce qu'on n'a pas tous des costumes du 17e à la maison. Et en fait, pour se rendre compte de ce que c'est, parce que c'est assez difficile à décrire, allez voir sur YouTube, on va mettre le lien sur le podcast. Il y a vraiment un baroque bal qui a eu lieu et vous verrez, l'ambiance est fabuleuse. Et donc c'est avec de la musique jouée par les musiciens d'Amaryllis, le chorégraphe et danseur Bruno Ben et Alix Coudray de la compagnie des Beauchamps. Le Baroque Ball, donc, c'est le 25 novembre à 18h au Grenier Saint-Jean. Et je voulais aussi vous signaler, Marie, que ce que j'aime beaucoup, enfin, ce qui est très appréciable avec Amaryllis, c'est cette volonté d'abord de démocratiser la musique, de la faire connaître à tous, et qu'il y a aussi autour de ce festival plein d'actions qui sont entreprises auprès du jeune public. Et pas moins de 400 élèves du département auront aussi leur baroque bal. Je trouve que c'est génial d'avoir un bal pour découvrir et apprécier la musique.
Ouais, un beau programme. Avant de terminer, on va faire connaissance avec l'ensemble Amaryllis.
Oui, Amaryllis, c'est un ensemble musical qui a été fondé en 1994 par Héloïse Gaillard. Héloïse Gaillard, donc, c'est une flûtiste et oboïste, j'ai toujours du mal à le dire, de renommée internationale. Elle en assure toujours aujourd'hui la direction artistique. L'ensemble fédère des artistes virtuoses dans une démarche de création, mais aussi de redécouverte de ce répertoire baroque et surtout avec une volonté de modernité et d'ouverture à un large public et de transmission. Je voulais justement signaler qu'en 2023, Héloïse Gaillard et Patricia Petitbon ont créé l'Académie des Chants d'Ulys à l'abbaye de Fontevraud, c'est en partenariat avec le Dôme de Saumur. Cette académie internationale propose aux étudiants chanteurs et musiciens un cursus de perfectionnement très personnalisé. Et donc la prochaine édition aura lieu toujours à Fontevraud fin avril 2024.
Merci Cécile. Le festival Les Rendez-vous d'Amaryllis aura lieu à Angers pour le grand public les 24 et 25 novembre. Tous les renseignements sur le site de l'ensemble. Attention, ça ne s'écrit pas comme la fleur, c'est Amaryllis. Amaryllis. Et pour nous mettre l'eau à la bouche, vous avez choisi de nous faire écouter, Cécile, Henri Purcell, The Fairy Queen, une suite instrumentale de 1692. Thank you. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus à l'écoute de France Culture. Tout de suite, nous allons parler art contemporain avec vous, Isabelle.
Oui, Angers compte plusieurs galeries d'art contemporain et c'est tant mieux. On va s'intéresser aujourd'hui à la dernière en date, la galerie Arts & Co, créée par Pierre Sarrazin en juin 2022 et accompagnée dans cette aventure par Axel Boudaillé qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Axel.
Bonjour.
Pour commencer, comment vous est venue l'idée d'ouvrir cette galerie ? Êtes-vous vous-même collectionneuse ?
C'est Pierre Sarrazin qui est à l'origine de ce projet. Donc Pierre, c'est un vrai passionné, un collectionneur depuis plus de 35 ans. Et puis, il écume depuis 35 ans aussi les musées, les salons d'art et les expositions. Et du coup, un matin, en passant rue des Arènes, là où il a son agence immobilière, il s'est arrêté devant le 21 rue des Arènes et il s'est trouvé que ce local, qui était l'ancien local pied, était disponible. Et ça a été le début de l'aventure. Donc c'est paru au départ comme une évidence. Et ça devait être un lieu qui, justement, mixait un concept immobilier-galerie. Et puis, plus on avançait dans le projet, plus l'agence immobilière est restée aux 4 rue des Arènes. Et c'est devenu une galerie à part entière, en fait.
Donc, on l'a bien compris, Pierre Sarrazin est un grand amateur d'art contemporain. Et quel type d'œuvre exposez-vous à la galerie ? Est-ce qu'il n'y a que des tableaux ?
Non, il n'y a pas que des tableaux. On expose à peu près tous les types d'œuvres. On expose surtout des artistes vivants, donc dits contemporains, donc d'où galerie d'art contemporaine. Et nous présentons tout type d'œuvres comme des peintures, des sculptures, de la céramique, des dessins, des illustrations. Enfin bref, beaucoup, beaucoup de choses. Du street art aussi, c'est important. Donc vraiment tout type d'œuvres.
Et comment dénichez-vous vos artistes ?
Alors, on les déniche ou ils viennent nous chercher. C'est un peu les deux. Au départ, on avait quand même déjà un carnet d'adresses. On connaissait pas mal de monde, étant donné les collections, etc. Et puis, petit à petit, en ouvrant la galerie, les artistes ont commencé à venir nous voir. Et sur la galerie, ou via beaucoup aujourd'hui, sur notre site, sur Instagram, sur les réseaux, où on prend un premier contact. Et après, on va les rencontrer, visiter les ateliers. Et puis, nous, on écume aussi toutes les expositions possibles, inimaginables dans la région. Et puis aujourd'hui, on est invité, on ne peut pas tous les faire, mais on est invité à beaucoup, beaucoup de vernissages, d'expositions personnelles de plein d'artistes dans tout le Maine-et-Loire, voire les Pays de la Loire.
Alors, l'exposition en cours se termine demain, si j'ai bien compris, mais qu'avez-vous prévu pour la suite ?
En fait, déjà, demain, c'est le finissage de. On va organiser le finissage de notre expo Créatures, Sensualité et Urbex. Donc, ça sera une dernière occasion aussi pour le public de venir discuter avec les artistes. Et puis là, on est en pleine préparation de notre expo de Noël. Qui va s'appeler la boutique de Noël, la boutique cadeaux originaux. On va avoir plus de 25 artistes locaux, enfin régionaux, parce qu'on va aller jusqu'à Nantes, lors de cette expo, avec à peu près 14 nouveaux artistes qu'on n'a encore jamais présentés, dont des jeunes. Et là, on est très contents, dont des jeunes qui vont présenter pour la première fois ce qu'ils font à la galerie.
Alors, quel type d'œuvre ?
Alors, c'est pareil, là, on va avoir énormément de choses, hein, de la peinture, de la sculpture, de l'illustration, de la céramique, et vraiment tout type d'œuvre. Et beaucoup de street art aussi.
Je voulais vous demander également, à ce jour, combien d'expositions vous avez déjà proposées et combien d'artistes ont été invités ?
Alors, à aujourd'hui, en fait, sans compter celle de Noël, on a orchestré à peu près 12 expos. On en fait, en fait, l'expo, une expo dure à peu près 5 semaines. Et après, on a une semaine pour retransformer la galerie. Et on a présenté 38 artistes jusqu'à présent. Et à Noël, va s'ajouter à cette liste 14 nouveaux artistes. Donc, ça commence à faire un bon nombre d'artistes. Et on a une belle communauté. Enfin, et des gens qui commencent à être fidèles aussi. Et ça nous fait plaisir de les accompagner.
Merci Axel.
Merci Axel, merci Isabelle. Alors n'hésitez pas, poussez la porte des galeries d'art pour aller à la galerie Arts & Co. C'est 21 rue des Arènes, en plein centre d'Angers. C'est aussi sur Facebook et sur Instagram. Je vous laisse chercher tout seul, c'est facile. La prochaine exposition, c'est à partir du 23 novembre prochain. Merci Cécile et Isabelle pour la préparation de cette émission. Merci Étienne et Bénédicte pour la technique. Merci surtout, chers auditeurs, pour votre fidélité. C'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h, le dimanche à 11h et bien sûr en podcast. Partagez-nous sur les réseaux sociaux.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.